La revue de presse internationale, Eric Biegala, avec tout d'abord en Algérie la démission d'Abdelaziz Bouteflika annoncée hier soir.
Oui, Bouteflika abdique, c'est ce que titre en effet le quotidien Al-Watan sur sa page de une ce matin. Le journal se contente toutefois de reprendre le communiqué de quelques lignes diffusé hier soir par la présidence algérienne, signalant ainsi qu'avant son départ, programmé pour avant le 28 avril, terme échu de son mandat, le président devrait prendre d'importantes mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. Alors, quelles mesures? C'est encore si bilan, mais relève pour sa part El Mujahid, l'un des 6 quotidiens d'État du pays. C'est la feuille de route institutionnelle qui devrait s'imposer et la nomination du nouveau gouvernement constitue une importante étape de ce processus, souligne encore le quotidien, pour qui le fait que seulement 6 des 27 ministres que compte ce nouvel exécutif sont des membres reconduits de l'ancien gouvernement, le fait que seulement 6 de ces 27 ministres soient des nouveaux. Serait un gage de renouveau et le signe que, je cite toujours, les figures emblématiques de l'ancien régime ne font plus partie du paysage politique. En fait, cette démission de Bouteflika n'a rien d'une surprise, explique pour sa part Marc-Louf Mellen sur le site TSA, tout sur l'Algérie. Elle était même attendue depuis l'annonce du nouveau gouvernement, note-t-il encore. Le maintien du général Ahmed Gaïd Salah dans le gouvernement comme vice-ministre de la Défense au lendemain de son appel à l'application de l'article 102. Alors l'article 102, c'est ce qui permet d'empêcher en fait le président de la République pour raison de santé. Le fait que ce général reste au gouvernement était interprété comme le signe d'un compromis trouvé entre l'état-major et le cercle présidentiel pour trouver une issue à la crise. La solution consensuelle est donc ceci, la démission du président avec quelques réajustements dans les institutions en prévision de la transition, résume Marc-Louf Mellen. Alors reste à savoir si cette solution consensuelle fera également consensus dans la rue, autrement dit si cela suffira à l'apaiser.
On va en Turquie, Eric. Tout le monde semble avoir gagné les élections de dimanche.
Oui, alors du côté du pouvoir d'abord, le quotidien Sabah, par exemple, dans son éditorial de ce matin, estime qu'avec une majorité de près de 52% au niveau national, 52% des votes en faveur des candidats de son parti au municipal, le président Erdogan peut se féliciter d'une vraie victoire, une de plus, et qui le conforte largement. C'est à peine si l'éditorial du quotidien mentionne en passant la perte d'Ankara, la capitale, passée à l'opposition pour la première fois depuis 25 ans. Dans les colonnes de Hürriyet, le grand quotidien historique du pays, récemment racheté par un groupe proche du pouvoir, l'éditorialiste Yusuf Kanlı mentionne, lui, la perte des grandes villes, et notamment de la principale, Istanbul, et ses 16 millions d'habitants, ses 10 millions d'électeurs, qui, elle aussi, pour la première fois en un quart de siècle, a basculé en dehors du giron d'Erdogan. Un résultat très très serré, hein, 30 000 voix d'écart à peine, et qui sera manifestement contesté par l'AKP, le parti d'Erdogan. Alors, en l'occurrence, souligne Amberin Zaman sur le site Al-Monitor, c'est très probablement le vote kurde qui a permis cette victoire de l'opposition à Istanbul. Les Kurdes, qui constituent près de 12% de la population de la ville et qui normalement votent plutôt HDP, le parti pro-kurde, ont cette fois, et sur instruction de leur parti, manifestement apporté massivement leur soutien au candidat kémaliste du CHP qui s'opposait à celui d'Erdogan, permettant à Ekrem İmamoğlu de remporter la mise, ce qui devrait faire de lui le tout nouveau maire d'Istanbul.
Et enfin, en Grande-Bretagne, aux communes, le nom l'a à nouveau emporté hier soir.
Oui, the nose have it quand même, désormais à le répéter le speaker de la chambre, John Bercow. La chambre des communes a en effet rejeté hier soir toutes les propositions alternatives à l'accord de sortie de l'UE négocié par Theresa May. Pour la 5e fois, la chambre des communes a montré qu'elle savait ce dont elle ne voulait pas, mais aussi qu'elle ne sait toujours pas ce qu'elle veut, note lapidaire Martin Kettle dans les colonnes du Guardian ce matin. Juste au moment où on se dit qu'on ne peut probablement pas faire pire en matière de dysfonctionnement, la Chambre des communes nous montre que si, renchérit sur le même ton le site Politico. Résultat de quoi? Avec moins de 11 jours avant l'échéance du Brexit, le pays n'a toujours pas de plan qu'il pourrait présenter aux 27 de l'Union européenne pour les décider à autoriser une prolongation de la période de négociation. La perspective d'un no deal, d'une sortie de l'Union sans accord, semble donc se préciser. Un Brexit dur paraît presque inévitable, titre pour sa part le site Euractiv, reprenant la remarque de Guy Verhofstadt, le leader des libéraux au Parlement européen hier soir. Il reste une petite chance de l'éviter, poursuit-il. Ce serait que le gouvernement de Theresa May produise un ultime texte d'accord et obtienne de la Chambre qu'elle le vote cette semaine. Ça paraît douteux, très très douteux même. Ils sont nombreux au sein du gouvernement britannique à croire qu'une élection générale anticipée est désormais de plus en plus probable, même si personne n'en veut, note pour sa part The Independent. Et d'ailleurs, poursuit le quotidien, Theresa May a convoqué pour ce mardi matin, une réunion de son cabinet restreint sur 5 heures, bien au-delà des 90 minutes normalement dévolues aux affaires courantes. Le principe d'une élection anticipée y devrait être débattu. Et si la Chambre refuse à nouveau, pour la 4e fois, d'entériner l'accord cette semaine, une élection anticipée devient très probable. Mais le cas échéant, note encore The Independent, le Premier ministre devra demander à l'UE une extension longue de la période de négociation, ce à quoi l'Europe devrait accéder, le bloc ayant déjà signifié qu'il était d'accord pour prolonger la période de négociation en cas d'élection anticipée ou de nouveau référendum. Mais cela obligera aussi, sans doute, le Royaume-Uni à prendre part aux élections européennes du 23 mai.
Du coup, il y a beaucoup de suspense, Eric Biegala.
Et beaucoup d'élections en perspective.
Merci beaucoup pour cette revue de presse internationale que l'on retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr.